à voix nue. Hommage à Ahmed Ben Bella, premier président de l'Algérie, qui nous a quittés le 11 avril 2012. Redécouvrons des entretiens qu'il avait accordés à Séverine Laba, c'était en mai 2005. Ce soir, Ben Bella, la formation d'un jeune nationaliste.
Ahmed Ben Bella, un militant entre geôle et exil. Ahmed Ben Bella restera dans la mémoire collective franco-algérienne comme le premier président de la République algérienne indépendante. Héros de la Seconde Guerre mondiale, décoré de la médaille militaire des mains même du général de Gaulle, il fut toujours porteur d'une vision singulière du nationalisme. Un nationalisme ayant tout à la fois opté pour un socialisme spécifique et pour un strict respect des valeurs de l'islam comme pilier de la jeune nation dont il présida les destinées durant 2 ans et demi. Quelles furent dès sa plus tendre jeunesse les influences auxquelles Ahmed Ben Bella fut exposé? Quelles furent les motivations de son engagement dans les rangs de la révolution algérienne? Que conclut-il de l'échec prononcé du nationalisme arabe et de la montée de l'islamisme? Quel bilan de sa vie tire cet homme qui passa 8 ans dans les geôles françaises et 16 ans dans celle de l'Algérie indépendante? Ce sont à travers ces questions que nous allons tenter de brosser le portrait à la fois intime et politique de cette personnalité emblématique. Au cours de ces 5 émissions, Ahmed Ben Bella parlera de son engagement dans la résistance à l'occupation française en Algérie, de ses années à la tête de la jeune République algérienne indépendante, de son exil forcé et de son retour en Algérie, où il fait désormais figure de grand réconciliateur. Aujourd'hui, pour ce premier numéro d'A Voix Nue consacré à Ahmed Ben Bella, nous évoquerons la formation d'un jeune nationaliste.
Je puis dire que le commencement, ça a été... Alors que j'étais très jeune, je sortais d'un village, Marnia, pour aller faire mes études secondaires. À Tlemcen, c'est une ville qui, à un moment donné, a été la capitale d'Algérie. C'est une très belle ville où il y avait évidemment des lycées et je venais d'avoir mon certificat d'études. C'est là que tout s'est passé finalement. Lorsqu'un jour, j'avais 15 ans, j'avais un professeur, un très très bon professeur. Mais vous voyez, on revient à quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui. Il était intégriste, il était adventiste, vous savez, une secte qu'on appelle les adventistes. Et de temps en temps, il faisait des digressions. Et malheureusement, il lui arrivait de dire des choses. Je venais d'une zaouïa, vous savez, mon père était un muqaddem zaouïa, ce sont des soufis. Et donc la maison était fréquentée par ces soufis qui a dû venir régulièrement, disons, réciter leur chant à la maison. Et donc... Je veux dire simplement que mon enfance a été imprégnée par... sans que je connaisse trop ce qu'était l'islam, etc. Vous savez, mais disons quelque chose était entré en moi, qui reste jusqu'à aujourd'hui. C'est, disons, quelque chose de religieux, mais disons tout à fait spécial. Hein.
De mystique, pour être
dire. De mystique, voilà. De tout à fait mystique, voilà.
Et alors, on dit que cet instituteur, un jour, a traité le prophète d'imposteur.
C'est ça. Un jour... Il a commencé à encore, disons, nous... C'est drôle, c'était un professeur qui était descendant espagnol. Moi, j'aime beaucoup l'Espagne. Il s'appelait Benavides, il portait un nom arabe. Benavides, c'est Ben Ali. Vous savez, Ben Ali. Donc, il était un de ces musulmans, hein, ces maranes, vous savez. Mais il plein de convictions comme ça. Mais ce jour-là, je n'ai pas pu me retenir et j'avais dit, monsieur l'instituteur, de temps en temps, vous attaquez à des choses qui sont sacrées pour nous. Évidemment, je n'avais pas de grandes connaissances pour répondre. Mais disons, c'est parti. Et puis lui, s'énervant, me dit, Mohamed est un imposteur. Ça m'avait blessé, sans que je puisse, disons, répondre, sans que je puisse... Alors que je faisais des études, de très bonnes études, que je me suis arrêté, voilà. Ça a été un arrêt, j'ai commencé à voir autour de moi, et donc vraiment à voir ce que c'est que, comment il s'est exprimé, le colonialisme chez nous, vis-à-vis des élèves qui étaient avec nous, les élèves fils de colons, etc. Disons, une fenêtre s'était ouverte sur quelque chose.
Donc vous avez arrêté vos études secondaires. Quels étaient les...
C'est un blocage, disons, émotionnel, et c'est pas quelque chose de raisonné, c'est pas quelque chose que je pouvais expliquer. Mais disons, continuer mes études qui étaient bonnes, c'est très bon, mais c'était bloqué. J'ai commencé à faire du sport et devenir mauvais élève.
Ah, vous avez fait quoi comme sport? Parce qu'on dit que vous avez été champion de 400 mètres.
Oui, oui. Puis j'ai joué à l'Olympique de Marseille comme demi-centre. Lorsque je suis allé faire mon service militaire, j'ai joué à Marseille. Marseille était champion de France. Et puis je voulais vous dire, l'équipe de Marseille, c'était six Algériens, six Nord-Africains plutôt. C'était moi, c'était González, c'était Malvi, Doron, c'était Aznar, l'avancement de l'équipe de France. C'était, voilà.
Mais alors, quelles étaient vos lectures, vos influences? Est-ce que vous étiez déjà façonné pour entrer dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie?
Alors, voilà ce qui se passe. C'est que, justement, dès 1936, vous voyez, 34-36, j'ai 16 ans à l'époque. Se crée le Parti du peuple algérien de Messali Hache. Et voilà, c'est lié aussi au Parti communiste, attention, c'est le Parti communiste à l'époque qui était pour la libération nationale, et c'est lié à la guerre du Rif d'Abdelkrim, vous savez, 24-25.
Au Maroc.
Oui, au Maroc. Et le Parti communiste est totalement avec évidemment, Abdelkrim. Et Messali était dans le Parti communiste, oui. Peut-être pas les convictions communistes, mais enfin, c'était le lieu, pour, à l'époque, le mieux adapté pour, disons, quelqu'un qui veut agir en faveur de la libération de son peuple, contre le colonialisme.
Et vous adhérez en quelle année au PPA?
Je suis un an après que mon professeur me dise « Mohamed est un imposteur ». J'étais très jeune. Oui. À l'étoile nord-africaine, pas encore. Le PPA va être créé en 1937. Hein.
Et vous aviez lu Fanon, vous aviez lu des auteurs?
Je vais le rencontrer lors de la lutte de libération. Vous savez, c'est un Antillais, lui. Hein. C'est un Antillais qui était un psychiatre chez nous, à Blida, à l'hôpital de Blida, un immense, mais surtout un immense penseur. Je le rencontrais lors de la lutte de libération. Voilà. C'est à ce moment-là que je le rencontrerai. Et, bon, et puis après, bon, j'ai connu sa femme. On a transporté son corps de Tunis, où il était enterré en Algérie. Il était enterré en Algérie. Et surtout ses idées. Ses idées, elles nous ont nourris pendant... Je pense que nous n'étions pas les seuls, hein, parce qu'il n'a pas écrit uniquement pour l'Algérie. C'est vraiment... Pour moi, c'est le grand penseur du tiers-monde.
Et est-ce que vous avez lu Mao? Vous avez lu d'autres auteurs?
Vous savez, à l'époque, je lisais déjà beaucoup. Mao, non. Mao, je ne l'ai pas lu à l'époque. J'ai lu par la suite Mao.
Et ce n'était pas incompatible avec votre imprégnation de l'islam que d'être sensible aux idées communistes?
Moi, vous savez, nous n'avions pas l'intégrisme à l'époque. L'intégrisme, ça vient après, hein, même sur le plan du christianisme, c'est quelque chose qui viendra après, n'est-ce pas? Même s'il y a eu quelque chose qu'on peut, tenir comme étant déjà un intégrisme. Non, l'islam, il n'y avait pas d'intégrisme à l'époque, non. L'intégrisme, je vais vous dire, on peut le situer, hein, c'est un peu à partir des frères musulmans. En Égypte, vous savez, qu'il y a ce qu'on appelle l'intégrisme. Les frères musulmans ont un peu, vous savez, enfanté un peu tout ça. Les intégrismes que nous avons, même ailleurs, c'est un peu les petits-enfants d'eux. Hein, avec évidemment des résonances particulières, avec des sensibilités particulières. Mais je pense que l'intégrisme tel qu'il n'existait pas. Il avait le soufisme, les zaouïas. Chez nous, en réalité, une grande injustice que fait l'intégrisme en s'attaquant aux zaouïas, parce que les grandes actions chez nous anticoloniales, c'est les zaouïas qui les ont menées. C'est d'abord l'émir Abdelkader pendant 15 ans, c'est la zaouïa Kadiria, vous savez. Lui-même était un disciple d'Ibn Arabi. Lui aussi, c'est un soufiste. Il a écrit d'ailleurs des livres remarquables.
Et franc-maçon en même temps.
Oui, ça aussi, vous savez, c'était une époque, il fallait se couvrir, c'est pas par conviction, non. L'émir Abdelkader, il était un soufi, vraiment, un soufi total.
Alors, pour revenir à votre adhésion très très jeune au PPA, est-ce que à l'époque, parce que bon, à l'époque, il y a deux grandes tendances. Il y a la tendance Ferhat Abbas, assimilationniste, qui pense que l'Algérie peut être assimilée à la République. Et puis, il y a la tendance qui commence à un peu parler d'indépendance. Est-ce que vous êtes déjà travaillé par l'idée de l'indépendance ?
Oui, déjà. Mais à l'époque, Ferhat Abbas n'existait pas. Cette idée de... ça viendra après. Ça viendra lors de la guerre de libération, hein, n'est-ce pas ? Et que les Américains débarquent en Algérie et que M. de Murphy prend contact avec Abbas et lui fait sentir que s'il faisait une déclaration... Et c'est là que Ferhat Abbas était vraiment pour la nationalité française. Il était pour une citoyenneté française. Il se démarque un peu, disons, un nationalisme, mais franco-algérien, voilà. Il n'était pas pour, une option qui signifiait la cassure, n'est-ce pas, avec la France. Il pensait, à l'intérieur de la France, concevoir quelque chose. Il a fait sa déclaration lors de l'arrivée des, rappelez-vous, après la Deuxième Guerre mondiale et le débarquement des Alliés, sur initiative de M. Murphy, n'est-ce pas, qui était américain à l'époque, il a fait une déclaration générale, n'est-ce pas. Mais il a suffi qu'il fasse cette déclaration qui était nationaliste pour qu'un vaste mouvement se crée. Les oulémas, le PPA à l'époque, et les amis, les élus, nous disons les élus français, algéro-français, n'est-ce pas, Ferhat Abbas, c'est tous les élus des Constantinois surtout. Hein.
Docteur Benjelloun.
Benjelloun, lui, le premier. Hein. Et alors là, il crée le courant des amis du manifeste, auquel j'adhère personnellement. Mais à l'époque, je suis à Cassino. Hein.
Alors justement, vous avez été un héros de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez été décoré des mains même du général de Gaulle. Racontez-nous un petit peu votre guerre.
J'étais décoré avant de Gaulle, j'étais décoré à la Deuxième Guerre mondiale, mais en France, en battant en France contre l'aviation allemande. Nous avons descendu des avions sur Marseille qui sont venus, n'est-ce pas ? Et personnellement, j'étais un de ceux qui avaient descendu ces avions. On avait descendu pas mal d'avions de Stuka. Ils sont venus bombarder le port de Marseille. Et donc, j'étais décoré, là. J'avais une croix de guerre. Mais j'étais appelé, n'est-ce pas ? J'étais simplement appelé. Je vais vous dire quelque chose. Je vous le dis sans... mais uniquement pour un peu vous mettre dans l'ambiance. J'étais un des seuls à me battre tellement il y avait un sentiment de lâchage comme ça, vous savez. Le type qui était avec moi... Pas tous, parce que finalement, c'est avec les types qui m'ont suivi. J'étais sous-officier à l'époque. Que nous allons nous vraiment défendre Marseille, tirer sur les échapper par miracle, vous savez, parce qu'on était sur la jetée, on était bombardés. Bon, les obus tombaient à gauche ou à droite, mais très près de nous. Hein. Et c'est comme ça qu'on a pu finalement faire tomber pas mal d'avions. Et je vous assure, je l'ai fait un peu contre la volonté de tous mes amis qui étaient là, qui étaient sous-officiers. J'ai été même... J'hésite à vous dire ça.
Ah non, allez-y.
Ouais. Ben, j'étais menacé, vous savez, d'être liquidé. Tellement il y avait cet esprit de, vous savez, de lâchage, hein, qui avait touché un peu pas mal de gens, etc., de virer d'abandon, etc. Et parce que moi, j'ai dit, non, moi, je tire. Etc. Quelqu'un était venu de la part des officiers me dire « Qu'est-ce que tu veux faire, toi ? Tu veux ?» Je dis « Non, moi, je tire. Voilà. »
Alors, comment ça se fait qu'un Algérien, donc un citoyen de seconde zone, et peut-on même parler de citoyen, dans votre cas, sous la... Comment ça se fait que ce soit vous qui soyez...
J'avais un accord moral, c'est tout. J'étais là. Je devais défendre un pays. Voilà, auquel j'appartenais. Les Allemands, je ne les aimais pas beaucoup à l'époque parce que j'ai eu deux frères qui ont été tués par les Allemands. J'ai eu un frère tué en 1914 et j'ai eu un autre frère tué en 1939 qui était en France. Et bon, ce n'est pas par vengeance, mais disons, j'étais là, c'était un problème de moral. J'avais fait ce choix-là, on comptait sur moi pour défendre la France et je l'ai défendue. Voilà. Je ne comprenais pas que d'autres pièces. C'était l'époque, vous savez, de Pétain, déjà. Bon.
Alors ensuite, vous avez été démobilisé en 40. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le corps des tirailleurs marocains qui va faire la campagne d'Italie?
Là, c'est drôle. Bon, moi, je devenais finalement un homme dangereux. J'avais un dossier. J'étais déjà quelqu'un de bien typé, etc. Donc dangereux. Et au lieu de m'envoyer donc, dans une unité algérienne, on m'a envoyé pour me faire liquider. On m'a envoyé avec les tabors. Vous savez, les tabors, c'est les unités qui attaquent la nuit et qui ne tiennent pas une position. Donc, qui viennent pour faire sauter les verrous. Ça, là où ça ne va pas, où ça résiste trop, ils viennent, ils attaquent la nuit. Et voilà, je me trouve dans une unité comme ça, hein, marocaine, alors que je suis algérien. Je trouve un officier fantastique, un noble monsieur de Villecourt, qui était capitaine de cette unité-là, et qui avait un dossier comme ça me concernant. Qui m'appelle, il avait son dossier, et qui me dit, tu sais ce qu'il y a là? Je dis, je devine ce que c'est. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est ma mort, je lui dis. Il commence à rire. Il me dit, moi, je ne veux pas ta mort. Je veux que tu me fiches la paix. Je veux que tu ne fasses pas une propagande contre la France. Ce sont des unités spéciales d'élite marocaine. Et on fait un bail, tu ne fais pas de propagande contre eux, tu fais ton devoir, tu te bats, etc. Je te fiche la paix, moi, ce dossier. J'ai dit oui, j'en fais ce bail. Voilà comment ça a commencé. Le capitaine de Villecourt, je lui sauverai deux fois la vie. Une fois, parce qu'il est alsacien, il est pris. Parce que vous savez, on était ensemble, hein, on était à 10 mètres, 15 mètres ensemble, et on se mélangeait finalement dans la... à 2000 mètres, 2500 mètres d'altitude, dans le feu de la bataille. Et à un moment donné, il est pris. Il est pris et il doit être exécuté sur le champ par les Allemands, parce que leur loi, un Alsacien, c'est un ennemi s'il passe, c'est une trahison s'il passe en face. C'est les Français. Et lui, il était passé. Lui, il était un de ces officiers qui avaient quitté la France, passé par l'Espagne, qui ont été arrêtés en Espagne, qui ont été ensuite relâchés, qui sont venus pour se battre en Algérie, et évidemment en Afrique du Nord. Évidemment, ces officiers, c'était les super officiers militaires qui voulaient se battre, etc. Et De Villecourt était un de ceux-là. Alors, un jour, il est pris donc, et il va être exécuté. Hein. Et c'est moi qui le sauve à coups de grenade la nuit, parce qu'on a failli le tuer aussi, parce qu'on ne peut pas envoyer des grenades dans un tas comme ça. Mais finalement, il n'a pas été touché, on l'aura enlevé. Ça, c'est la première fois. La seconde fois, il est dans le même endroit qu'un jour après. Il est grièvement blessé. Et s'il passe la nuit, on était à 0,5, 0,6... la température aussi, parce que la nuit, là-bas, à 3000 mètres d'altitude, il a la gangrène, automatiquement. Et donc, je le prends sur mon dos, je demande des volontaires, et je le descends de presque 3000 mètres d'altitude, toute la nuit, et il est opéré, il est sauvé.
C'est ça qui vous vaut une médaille accrochée par le général de Gaulle?
C'est l'attaque contre Rome. Contre Rome, parce que la grande attaque qu'on fait sur la ligne Gustave, c'était un peu la ligne Maginot, vous savez. Et cette ligne, on l'emporte, hein. On a des pertes terribles, et c'est la porte de Rome. On court derrière les Allemands, ils se sauvent, ou bien ils nous... Mais comme c'est des combattants, c'est des gens qui savent se battre, etc., de temps en temps, alors qu'ils se retirent, ils s'arrêtent. Ils mettent leurs chars, les premiers, vous savez. Finalement, on se trouve face à des chars, à 20 mètres, 30 mètres. On est descendu comme des... Ouais. Et bon, c'est à ce moment-là que j'ai ma... Parce qu'ils commencent à nous liquider réellement, et on laisse tout, vous savez. Et donc, j'organise une résistance avec ceux qui restaient, avec les officiers qui étaient derrière, etc. Et on repousse les Allemands.
Qu'est-ce qu'il vous dit de Gaulle en vous remettant votre décoration?
Vous allez aller en France. Cette fois-ci, il faut libérer la France. Je n'étais pas le seul auquel il disait à nous tous. Et puis il me dit à moi, Il va falloir repartir tout de suite, etc. Il me dit, comment êtes-vous? Parce qu'il est fantastique, ce type-là. Je dis, on est très fatigué. C'est vrai, moi, je... Parce que tous les officiers chez moi, tous avaient été partis dans les hôpitaux pour un mois, deux mois. Je suis le seul qui n'a pas été. Je ne suis pas blessé, vous savez, je n'ai pas comme ça, sûrement. C'est un miracle.
Vous avez eu la baraka.
La baraka. On m'a tiré à 10 mètres.
Pour terminer, le 8 mai 45, en France, nous célébrons la défaite de l'Allemagne. Et en Algérie, on commémore les massacres de Sétif. Sétif, donc, il y a un grand soulèvement, une répression absolument atroce de l'armée française. On parle de 20 000 morts. Le PPA considère qu'il s'agit d'une répétition générale et décide de passer à l'insurrection. Puis ensuite, il y a eu un contre-ordre. Pourquoi ?
Oui, parce que le parti avait estimé que nous n'étions pas prêts au dernier moment. Mais ce contrôle n'arrive pas partout. Il n'arrive pas en mon cabinet notamment. Le type qui vient, il n'arrive pas. Et donc, eux agissent. Et donc, voilà un maquis qui se crée avant terme. Voilà. On a vécu avec ça. Il n'y a rien. Mais... l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est que, au sein du parti, le problème des moyens pour libérer le pays, disons, n'était pas très, très, très clair dans l'esprit de certains cadres. Est-ce par la violence, est-ce par autre chose qu'on va obtenir l'indépendance? Tout le monde est d'accord. Par quels moyens? Nous n'avons pas été, disons, tous d'accord par cela. Pour moi, et pour certains, qui était la majorité dans les cadres, disons, moyens. Le 8 mai, ça a été le déclic. Le déclic. L'Algérie est une colonie française, avec aussi 2 500 000 colons, qui avaient mis la main sur toutes les terres pratiquement. Les bonnes terres d'Algérie, etc. Et donc... pour moi, mais pas pour moi, pour tous ceux qui ont choisi, il n'y avait que la violence qui pouvait, l'usage de la violence qui pouvait, disons, affronter l'autre violence totale, alors celle-là, hein, cette violence, parce qu'il faut aussi rappeler ceci, vous savez, l'Algérie, finalement, ce qui s'est passé le 1er novembre, ce n'est pas nouveau, c'est un continuum, vous savez, l'Algérie, c'est l'émir Abdelkader, pendant 15 ans, il va se battre. L'émir Abdelkader. Après l'émir Abdelkader, presque aussitôt, c'est la Kabylie. Kabylie, 3 ans avec le Bachar Mokhlani. Et là aussi, évidemment, des morts, c'est par dizaines de milliers, et surtout la même mise sur les terres algériennes et, une dette à payer par les tribus, etc., énorme, uniquement pour mettre la main sur les terres. Tout de suite après, c'est le Cheikh Nzaouia du département d'Oran du Sud, où le Cheikh Nuiman Zaouia, ça durera 23 ans, par période, n'est-ce pas, mais 23 ans. C'est aussi la Zatcha, c'est Biskra, c'est le sud de l'Algérie centrale, c'est Biskra, c'est Bouziane, ça durera 3 ans. C'est les Aurès plusieurs fois, c'est l'Emsen. Disons, toutes les 10 années, toutes les 15 années, il y a eu une action armée.
Et donc, après, c'est vous qui allez prendre le relais, et c'est ce que nous verrons demain ensemble. Ahmed Ben Bella, merci beaucoup.
C'était À Voix Nue, hommage à Ahmed Ben Bella que Séverine Labat rencontrait en mai 2005. Attaché d'émission Claire Poinsignon, réalisation Mehdi Elange, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant 2 semaines sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Séverine Labat avec Ahmed Ben Bella.